Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle série de grands entretiens avec les artistes d'aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, c'est Yves Ravet qui est notre invité d'en parler temps qui court.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Marie Richeux.
Par les temps qui courent.
Avec Yves Ravet.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
On retrouve le corps de Tippi, la femme de Monsieur Meyer, parmi les débris de sa voiture au fond d'un ravin. L'inspecteur Costa enquête sur ce drame, accident ou piste criminelle. Monsieur Meyer se plie aux interrogatoires de l'inspecteur, ce qui n'est pas de tout repos, d'autant qu'il n'est pas dupe. Voilà ce que l'on peut lire sur la quatrième de couverture de votre dernier roman, Yves Ravet, et l'on dit que vous remettez sans cesse l'ouvrage sur le métier tant que vous n'êtes pas en mesure de résumer le livre écrit en quelques phrases. Mais c'est nous qui ne sommes pas dupes. Si ces phrases tracent au sol le contour blanc d'un livre supposé, on sent bien que le livre se tient plus encore au bord du précipice, où ce que l'on appelle amour, désir sexuel, secret, jalousie ou regret côtoient la mort et sont autant de perles serrées sur un collier mystérieux. Pas dupe, c'est le titre de ce roman publié aux éditions de Minuit. Bonsoir Yves Ravet.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. On va prendre un tout petit peu d'avance sur le calendrier et dire qu'en septembre, après avoir été joué à Besançon, on pourra voir la mise en scène de Sandrine Lanneau de votre texte Le Cours Classique, cette fois au Théâtre du Rond-Point, à Paris. Un texte de 95 qui trouve sa forme sur scène. Ça fait plaisir.
C'est un très beau travail. Une mise en scène très raffinée et très intelligente, je dois le dire, de mon roman, écrit en 95, donc, mais qui a apparemment, et d'après ce que j'ai pu voir, gardé toute son actualité. Ça, c'est ce que j'ai ressenti.
Voilà. Superbe invitation, alors, pour septembre, pour les Parisiens et pour les autres.
Merci.
J'ai revu Kowalski au bord du précipice le jour où la voiture de Tippi est sortie de la route. Il contemplait le vide, l'air hagard. Je connaissais bien Kowalski. Sa profession, agent d'assurance à la compagnie Pacifique, mais aussi depuis pas mal de temps, amant de Tippi, ma femme, morte dans l'accident. C'est son corps à elle que je cherchais à distinguer maintenant, parmi les débris au fond du ravin. 2 heures à peine s'étaient écoulées depuis le drame, et Kowalski était déjà là. Quant à moi, un agent de police m'avait tiré du lit pour m'annoncer que ma femme, Tippi Meyer, avait perdu la vie dans un accident de la route. Le camionneur qui franchissait le col en sens inverse, m'a dit le policier, n'avait rien vu d'autre qu'un nuage de poussière en contrebas. La voiture de Tippi accomplissait alors son dernier tonneau. Quand je suis arrivée sur les lieux, la police était là avec les secouristes. Un agent s'est aussitôt déplacé à ma rencontre. On avait dû lui indiquer qui j'étais, mais je me suis présentée. Salvatore Meyer, le mari, on vient de me prévenir. L'agent a hoché la tête. Je ne me souviens même pas de son nom. Pourtant, il m'a interrogé un bon moment avant de me laisser entre les mains de l'inspecteur.
Yves Ravet, c'est l'incipit de votre roman que lit Jeanne Aléos. Et en l'écoutant et en lisant, parce que j'avoue qu'en terminant le livre, je l'ai repris. Et je me suis demandé ce qu'on m'avait dit au départ. Et c'est vraiment un livre qui appelle une relecture joyeuse. En écoutant Jeanne, donc à l'instant, je me suis dit, tout est presque là. Alors comment s'écrit cette première page? Dans quel état d'esprit?
Oui, c'est vrai qu'on se rend compte, après lecture de certaines circonstances du roman, comment ce roman a débuté, son écriture, vous me dites.
Ou plutôt cette première page.
Cette première page, j'avais la nécessité de, tout en écrivant, de conserver cette idée de mise en scène. Et j'avais en image, outre l'idée que je me trouvais dans un lieu qui serait celui où se pouvaient se dérouler ces films américains des années 30 et 40 dont j'avais l'image. Outre cette idée-là, j'avais aussi cette image, tout à fait à mon sens cinématographique, de personnes qui s'agitent devant un lieu qui est un lieu de drame, la tragédie d'un accident, une jeune femme. Tout de suite, la machine se met en route. Mais le travail, en définitive, était concentré quoi sur ce personnage qui s'appelle Salvatore Meyer, réveillé en plein milieu de la nuit par un agent de police, ce qui n'est jamais très bon signe. L'agent de police lui indiquant, enfin le tenant, lui informant, lui disant que son épouse a eu un accident de voiture, ce qui est encore du point de vue de l'économie le moins qu'on puisse faire, si vous voulez, mais la phrase suivante, c'est pour lui apprendre que sa femme a perdu la vie dans cet accident. Et c'est un départ, un incipit de la décomposition, si vous voulez.
Point du temps, par point, vous voulez dire, ouais.
Du temps et des actes. Lui, il arrive, première personne qu'il voit, Kowalski, et il déclare que celui-là, depuis un certain temps, est l'amant de sa femme. Mais depuis un certain temps, ça sous-entend déjà qu'il y a une souffrance personnelle depuis un certain temps.
D'ailleurs, il me semble que l'un des premiers verbes, c'est « j'ai revu Kowalski ». Donc c'est vraiment l'idée que cette scène-là, du drame avec laquelle s'ouvre le roman, elle arrive en effet après un certain temps, Yves Ravet.
Oui, on est au milieu d'une brèche qui vient de s'ouvrir. Il y a eu ce qu'il y a eu avant. Et c'est certain, vous m'ouvrez une porte là, je peux dire que au moment où je démarrais, j'étais en train de me dire que il faudrait que j'arrive à la période qui a précédé cet endroit où j'ai démarré. C'est-à-dire que je devais accomplir un cercle, finir une histoire, mais qui commence à l'endroit du roman proprement dit, c'est-à-dire le roman imprimé, le livre, mais qui lorsqu'elle commence, est déjà le résultat d'une accumulation d'événements, souvent dramatiques d'ailleurs, mais qui se sont enchaînés et qui ont produit cette fin qui est pourtant le début. Et le voilà qui se penche au-dessus du précipice, ce personnage, Salvatore Meyer, et qui se retrouve... En définitive, il a encore un autre interdit, là. Je me rends compte après. C'est qu'il voit le pavillon de la voiture qui recouvre sa femme, mais il ne peut pas voir sa femme.
D'ailleurs, il dit « je cherche son corps ».
Voilà. C'est le corps de sa femme qu'il veut voir, immédiatement. Et c'est-à-dire que je crois avoir cerné, mais ceci de très loin, parce qu'on se met pas à la place des gens comme ça, mais que le moment du décès, d'une personne proche, dans les conditions tragiques où cela se déroule tout le temps, bien entendu, le fait de voir le corps, puisque lui, il utilise le mot... Il ne veut pas voir sa femme, il veut voir le corps. Il a bien compris où il en est, Et le fait de voir le corps est un acte primordial. Ça permet certainement de mémoriser quelque chose, je ne sais pas, mais au moins de fixer un moment de sa propre histoire et surtout de la perte. C'est le deuil, voilà. Donc nous en sommes à l'étape prochaine de la tragédie vécue par Salvatore Meyer, et au moment où il tente de descendre pour voir sa femme, il imagine qu'il va pouvoir, un secouriste lui dit « arrêtez-vous monsieur, c'est interdit, c'est dangereux ici ». Donc il n'a pas le droit, voilà, en plus.
Et on ne cessera, au cours du roman, de l'empêcher de voir ce Salvatore Meyer à chaque fois, d'une certaine manière, y compris quand il doit reconnaître le corps de sa femme, il ne voit que son visage, dans mon souvenir, Yves Ravet.
Oui.
Et c'est aussi l'histoire d'un homme qui, à la fin, on va essayer de ne rien dévoiler de ce roman-là, dit que peut-être il a voulu trop voir. Peut-être il a voulu trop savoir, peut-être que ce qu'il a mis en mouvement, c'est de trop vouloir s'approcher.
Oui, il a souhaité, il voit le corps de sa femme recouvert par une housse, appelons-la comme ça, une housse plastique, d'où ne sort que le visage. Et par chance, mais là on est dans le roman, par chance, le visage est intact. Et comme elle est supposément très très belle, c'est essentiel. Mais ce qui est particulier, c'est que s'il ne voit que la housse et le visage, c'est que certainement on présuppose, et c'est ça le travail de la lecture peut-être, on présuppose quand même que le corps a dû souffrir énormément. On est là dans des situations difficiles où les corps peuvent être reconstitués, enfin, etc. On ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Je vous en prie.
C'est ça, c'est quand vous dites qu'il veut trop en voir, c'est ça la question, c'est qu'on lui masque là une partie, ce qui est d'ailleurs parfaitement normal, mais il faut pas oublier qu'on est dans un contexte que je vais dire réaliste sans chercher les grands mots, mais réaliste d'un accident de voiture, quoi, voilà.
Et puis, c'est quelque chose qui fait écho lorsqu'on sait que c'est aussi un homme qui a voulu trop peut-être savoir ou qui a voulu savoir les amours différents ou les désirs différents de sa femme, mais on en parlera plus tard, Yves Ravet. Puisque vous parlez du travail de la lecture, c'est bien heureux pour entamer cette discussion. J'ai lu comme ça plusieurs critiques de ce texte-là et d'autres textes qui disent « rentrer dans vos romans ». Curieux, attentif à ce qui sera déposé comme indice, curieux des noms qui sont choisis pour les personnages, à l'affût. Comment est-ce que vous imaginez le travail de vos lectrices et de vos lecteurs ?
Je les imagine d'abord très présents, peut-être pas au moment du premier travail d'écriture qui se formule sous une forme, enfin qui se fabrique sous une forme, je dirais, pulsionnelle, c'est-à-dire que je laisse aller l'intrigue de jour en jour à la façon dont elle doit elle n'est pas autonome, c'est moi qui écris bien sûr, mais elle avance parfois, on a l'impression qu'elle avance toute seule.
Quitte à vous surprendre par exemple sur des résolutions d'enquête ou quoi ?
Je peux être surpris, bien entendu, et je peux être surpris aussi des intentions que j'ai, que je ne parviens pas à faire aboutir. Et donc, c'est simplement, oui, une question de recherche d'abord dans un premier temps, puis dans un second temps, quand j'ai posé la situation et qu'une intrigue se serait peut-être révélée, je commence un travail de, je vais dire, d'élucidation de cette intrigue quand même, de voir en quoi elle peut être l'objet d'une série d'éléments logiquement agencés et qui produisent en principe une histoire sensée. On est ici dans une affaire criminelle éventuellement, donc les choses doivent être extrêmement précises. Et le temps le plus long, en définitive, du point de vue de la durée, c'est celui de l'écriture, de la correction, de la remise au point de chaque phrase, composée de chaque mot, composée de chaque lettre, composée de chaque sonorité, composée de chaque terme à l'intérieur d'une phrase est relié à ce qui s'est passé avant et à ce qui et annonce ce qui se produira plus tard. Et donc, c'est à cet endroit-là que la position du lecteur me paraît, moi, l'essentiel. Je crois profondément que c'est le lecteur qui fabrique l'histoire, ensuite. C'est-à-dire que, dans ma tête, ça a été fait, ça a été supposé, mais j'ai beaucoup de surprises plus tard. Sur le livre lui-même imprimé, on peut imaginer que c'est stable, mais je suis quand même persuadé que chaque lecteur, chaque lectrice est originale et interprète à sa manière. C'est pourquoi je veille très attentivement à ne donner que des choses précises et paradoxalement,
ouvertes.
Ces choses très précises permettent d'imaginer beaucoup. Alors que si j'écris beaucoup, et si je décris beaucoup, j'enferme un petit peu le lecteur dans une forme d'entonnoir, c'est-à-dire je le dirige là où je voudrais qu'il aille. Et ça, je fais attention de ne pas le produire, voilà. Donc c'est pourquoi je reprends chaque terme et j'aimerais arriver à ce qu'il y ait le moins de descriptions possible, par exemple, ou que les mots d'un échange, d'un dialogue soient le plus précis, soient le plus oral possible, quoi, voilà.
Quand je lisais en introduction les quelques phrases qui résument le livre en quatrième de couverture, et que je disais ça, cette histoire que j'ai entendue, que ce sont des phrases importantes pour vous, ces phrases qui résument un livre, est-ce que vous en êtes l'auteur des phrases qui sont derrière le livre ?
Oui, mais après une longue construction et un long échange avec d'éventuels lecteurs ou lectrices, et...
De la maison d'édition ?
De la maison d'édition ou de, à titre...
De votre entourage,
oui. Mon entourage, je fais pas de... Là, le principe, si vous voulez, c'est que chaque mot puisse être quand même révélateur de ce qu'il y a dans le contexte. Et je dois vous dire une chose, et là c'est très clair, je n'ai pas obligatoirement mon moi le recul suffisant dans un temps qui est, par exemple, de 2 mois après l'écriture, 3 mois, 1 an, même 1 an, je n'ai pas suffisamment de recul, moi, par rapport au texte, pour pouvoir, comme ça, dresser un panorama, enfin. Et là, alors, on arrive là à la notion de recherche du titre. Et je crois que la notion de recherche du titre ne doit pas être, j'ai un terme que je n'aime pas beaucoup, mais que je vais utiliser, tape à l'œil. Si vous voulez, ou correspondre à ce qu'on entend, les beaux romans écrits de manière exotique, etc., avec du soleil, avec de l'amour et puis de l'affection. Je veille à ce que ce soit un titre retenu de manière pas équivoque, voilà. Mais ça reprend un sens qu'on peut donner au roman quand on a envie de l'ouvrir et de le lire, quoi.
Oui, c'est ça, parce que c'est quand même c'est un chemin de lecture possible quand on n'a pas dupe. C'est le titre de votre roman. On entre avec pas rien dans la tête, quand même.
Non, bien entendu.
C'est pas rien de rentrer avec pas dupe. On se dit, qu'est-ce qui n'est pas dupe? Est-ce que c'est moi qui lis le bouquin? Est-ce que c'est celui qui enquête? Est-ce que c'est celui qui répond aux questions de l'enquêteur? Est-ce que c'est l'amant? Est-ce que c'est le beau-père? Est-ce que c'est la femme qui est dans le ravin? Qui est-ce qui n'est pas dupe?
J'ai l'impression...
Est-ce que c'est l'auteur?
Vous voyez comme c'est difficile de synthétiser un roman. Je pense que c'est impossible. J'ai le sentiment que dans Pas dupe, il y a tout le roman, quoi. Et qui est globalement à l'intérieur. Comme on dit, par exemple, que l'Incipit dont vous parliez récemment, l'Incipit contient à lui-même, sur ses 4 premières phrases, tout le livre. Et ici, je crois que c'est le titre qui contiendrait tout le roman. Parce que c'est vrai qu'on peut l'appliquer à chacun, mais c'est l'ambiguïté de la situation. Je crois qu'on démarre toujours sur un malentendu. C'est-à-dire que qui est qui? Parce que moi, on me parle de roman où il est difficile, enfin, il faut qu'il y ait un coupable. Mais l'intérêt du roman, c'est que je ne sais, ou d'un personnage, c'est que je ne sais pas, moi, si la personne est coupable ou si elle est non coupable. Parce que les deux choses sont possibles. Donc là, je dérive un peu, mais, et je m'éloigne, mais pas tant que ça de cette chose, de ce mot, quoi, qui est la duperie, c'est-à-dire, en définitive, afficher un sens qui n'est pas celui que l'on croit. Donc, la superposition des sens différents au fur et à mesure que les choses avancent à l'intérieur du récit. Et moi-même, quand je l'écris, je sais pas. Je suis le premier dupe. Parce que je sais pas exactement comment les choses vont se produire. Parce que j'attends toujours un événement que je vais, moi, prêter à l'un des protagonistes, qui surgit et qui, moi, va m'orienter ailleurs. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, si je parlais du réel, la vie, tous les jours, si on est avec nos amis et nos ennemis, et que nous sommes en train de parler, je découvre à chaque minute quelque chose, la façon dont cette personne Thiers s'est habillé, m'a parlé, a agi dans un certain sens. Je découvre et je recompose. C'est-à-dire que j'ai l'image qu'un individu ou un personnage de roman, au moins, n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'il faut... On dit que l'on peut creuser à l'intérieur de la tête. Alors moi, pour moi, c'est déjà trop violent, creuser. Je voudrais m'approcher, saisir l'ombre éventuelle qui va m'indiquer que on est ailleurs que où l'on croyait. Vous savez, ces genres de surprises et puis ces retournements de situation, ça produit des retournements de situation. Et ça, si je peux me l'approprier, je dirais que c'est du ressort, c'est le ressort du romanesque.
Jusqu'à un virage produit par une virgule, c'est-à-dire que la dernière phrase de votre roman est en l'occurrence un corps ou un visage qui apparaît.
Oui.
Bon, bah moi je ferme le livre et je me dis ok, tout est possible. Tout est possible.
La fin s'ouvre sur quelque chose qui me donne l'impression qu'on retourne au commencement. C'est-à-dire que je revois le personnage construit à la fin comme j'ai pu l'imaginer au début. On ne va pas pouvoir dire que le début, le personnage, il est transparent, il est vierge, on va dire, d'accord ? On peut pas dire ça parce que au moment où démarre l'histoire, il s'est déjà passé quantité de choses. Et c'est ce phénomène de l'accumulation des éléments qui fait que je crois qu'il n'y a pas un endroit où il ne peut pas être découvert d'une manière évolutive, mais surtout différente, quoi. Et c'est peut-être ce que je retiens, moi, d'intéressant au moment où je travaille, où j'écris. C'est-à-dire que, en définitive, je dis que je suis l'auteur, mais en même temps, je suis le premier à assister à l'événement que je suis en train de fabriquer. Je peux prendre de la distance en disant qu'il y a des projecteurs, des caméras, tout est centré. On parle de focalisation en littérature, on peut parler de focalisation, on parle aussi de focalisation en photographie et enfin en cinéma, c'est certain, là, c'est clair.
Si je devais faire un peu la psychanalyse d'Alfred Hitchcock, j'aimerais savoir comment et quand lui est venu le goût du suspense.
Je pense quand j'étais... un méchant enfant, à l'âge, je pense, 4 années. Mon père a donné moi une note pour prendre aux polices. Et les polices a metté moi dans une prison et dit, c'est seulement pour les méchants enfants. J'étais dans la prison pour 5 minutes, mais c'est tout pour moi.
Et cela vous a appris à...
Je n'aime pas les polices.
Ce que je voulais savoir, quelle est votre définition du suspense?
Il y a deux fois, il y a la surprise et le suspense. Pour la surprise, par exemple, il y a dans cet studio une bombe. Nous parle pour 5 minutes, et la fin de 5 minutes... La bombe explose. C'est une surprise. Pour suspense, le public connaît la bombe est là. Et dans 5 minutes, la bombe explose. C'est suspense. Quand le public connaît la bombe est là. Quand le public ne connaît pas, c'est surprise. J'aime le suspense, perso.
Your kiss is one thing I must own. Your kiss is like none that I've known. Your kiss goes to my head like wine. Make it mine, your kiss. Kiss is soft as summer rain. Your kiss is wild, exciting pain. Your kiss is like a rhapsody played for me. Your kiss. only your face. My arms just long for your touch. My heart now beats at a mad pace. My willpower's dead. I'm caught in your web. Your kiss can make a slave of me. Your kiss can shape my destiny. Your kiss is all I'm living for. I adore your kiss.
France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Yves Ravé.
Vous parliez de focalisation similaire, en tout cas on utilise le même mot pour la littérature, la photographie, le cinéma. Yves Ravé, à l'instant la voix d'Alfred Hitchcock en 1963, il est à Cannes. Il parle à la télévision, dans un très joli français, la différence entre surprise et suspense. Et juste après, et à l'instant sous nos voix, un extrait de la bande originale de La main au collet, film d'Alfred Hitchcock, parce que vous faites signe vers Hitchcock de plusieurs manières. Dans ce livre-là, pas dupe, Yves Ravé. Alors, quels sont les... Comment on pourrait dire, quelles sont les, j'allais dire, les portes vitrées de cabines de douche entre la littérature et le cinéma pour vous?
Ben, d'abord, Hitchcock, c'est la traversée de presque plusieurs phases du cinéma. Depuis ses premiers téléfilms pour la télévision, courts-métrages, enfin, c'est vraiment un lieu de réflexion, ça c'est clair. Sur l'image et sur la narration, quoi, sur comment on écrit. Parce que ce qui se pratique, c'est que ce qui se fait en cinéma, peut être rapporté sur le plan de la, par exemple, de la séquence, toutes ces choses-là, sur le roman.
Et pas inversement. C'est dans ce sens-là pour vous, en tout cas pour votre écriture.
Pour ma part, oui. Mmh. Mais ça veut dire aussi que j'ai bien la considération du fait que le roman précède l'image du cinéma. Mm. Et d'ailleurs, historiquement, elle le précède et on oublie souvent ça.
Bien sûr, c'est pour ça que je pose la question.
Oui, oui, oui. Et oui, et donc l'idée chez Hitchcock, elle est effectivement de prévenir le spectateur qu'il va se produire quelque chose. L'autre idée, si vous voulez, c'est de, par exemple, cette histoire de bombe qui peut exploser. On peut aussi être informé qu'il y a une bombe et qu'il y a toujours du suspense. Parce qu'il y a encore autre chose qui va se produire, c'est comment elle va exploser. La bombe, elle peut exploser en détruisant tout. Elle peut aussi exploser en faisant long feu. Donc, ce qui signifie que rétroactivement, elle n'explose pas du tout. Et ça aussi, c'est un ressort. Il y a donc, je dis, plusieurs interprétations possibles. Je me réfère à ce que raconte Hitchcock à Cannes. Et donc, le ressort, il est aussi que le roman se construit sur un ensemble d'événements et que ces événements qui s'enchaînent les uns les autres ne sont pas obligatoirement induits comme ça de manière d'une manière logique. C'est-à-dire, j'en reviens au lecteur ici, chacun va interpréter et fabriquer à sa façon le résultat ou la résultante de ces événements successifs.
La causalité, c'est-à-dire en tout cas, il y a des événements qui peuvent dans le texte se succéder, mais c'est parfois à nous de les agencer et de dire pourquoi ou comment ils se succèdent.
Oui, le principe que je retiens là, quoique je n'écrive pas avec des principes, c'est cependant que les choses doivent être établies très clairement. Et la chaîne des causalités est importante. Mais la chaîne des causalités peut compliquer aussi les situations. Là, je pense, moi, que ce livre est simple à lire, bien entendu. Si on reprend maintenant une deuxième interprétation, si on réfléchit à ce qui se produit, la grande clarté des événements et leur évidence peuvent produire des choses qui sont parfois mystérieuses. Et là, on rejoint le personnage qui est toujours un mystère. Et vous avez parlé tout à l'heure de la porte vitrée, je suppose, de la douche. Je suppose que vous faites allusion, si on vient de parler d'Hitchcock aussi, au film avec Anthony Perkins.
Mais aussi à une scène qu'on entendra peut-être tout à l'heure dans votre texte, Yves Ravet, mais à aussi une scène de votre roman qui reprend ce motif-là, de la porte de douche. Mais aussi, on peut rajouter au personnage de Tippi, la femme morte dans le ravin, faisant référence à la comédienne d'Hitchcock. Et probablement tout un tas de références qui m'échappent complètement parce que j'ai certainement pas votre culture hollywoodienne. Donc en tout cas, elle s'est semée. Il y a plein de petits cailloux blancs.
Oui, je crois qu'il y a des éléments qui se déposent. C'est-à-dire que ce que je dirais simplement là, c'est que on fabrique finalement collectivement et avec le retour historique sur les images passées une mythologie. Et cette mythologie, plutôt, elle peut être cinématographique, mais moi je la vois inscrite sur les parois de la caverne, si vous voulez, ou si vous prenez un temple égyptien, vous avez des éléments qui sont finalement très, et bien sûr mythiques, mais qui sont surtout mythologiques. Et donc certains symboles reviennent souvent, mais on s'aperçoit finalement qu'on ne fait que reprendre des termes qui sont inscrits déjà dans cette grande histoire. Et pas nécessaire d'avoir une culture précise, je crois, moi, de l'histoire des grands, des majors.
Pour que ça parle, bien sûr. La blondeur de cette femme, la voiture, oui. Le ravin, l'enquête, les maisons qui sont côte à côte, en effet.
Par exemple, vous avez raison, je pense, et par exemple, quand moi j'aborde dans l'écriture, j'étais pas certain, je savais pas encore que il entrerait. Il y a un moment donné où le personnage entre chez le personnage féminin, chez Gladys. Elle s'appelle Gladys. J'avais pas absolument prévu au départ, mais les choses se sont produites de telle sorte qu'en définitive, il y a cette histoire de paroi de douche et que le personnage va avancer, va pouvoir contempler à travers le verre dépoli, et il ne lui est pas possible de voir le corps autrement qu'au travers d'une déformation, donc peut-être très frustrante, je sais pas, ou au contraire est recherché. Ça, c'est le mystère de l'individu. Automatiquement, la scène de la douche, on pense, voilà, Anthony Perkins qui joue ce rôle de Norman Bates dans le film qui a gardé cette empreinte, quoi, très très célèbre, mais je veux dire que chaque élément d'écriture, en définitive, rejoint les grands thèmes.
On va l'écouter, cette scène de la douche, si vous voulez bien, parce qu'on en a trop parlé pour ne pas l'entendre. La nuit était dense. Je me suis rendue une nouvelle fois dans la propriété voisine. Les pièges chez Gladys étaient plongés dans l'obscurité. Je me suis guidée du regard à la veilleuse dans le salon, puis aux raies de lumière sous la porte entrouverte de la salle de bain. À cette heure, j'en étais à penser que Gladys ne méritait pas ma confiance, ni ma considération. Mais j'avais besoin de lui parler. L'écoulement de l'eau dans le bac à douche parvenait jusqu'ici, sur le seuil que je venais de franchir. J'avançais maintenant pas à pas, me repérant à l'aveugle aux meubles qui me séparaient de la salle de bain. Du salon, on pouvait apercevoir à travers la mince ouverture de la porte le verre dépoli de la douche. Je voulais demander à Gladys en quoi ça l'avait concerné que Tippi parte d'ici en ma compagnie la veille de l'accident avec son collier de perles. Qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire ? En quoi ça changeait sa vie ? Gladys chantonnait. Le jet de la douche couvrait à peine sa voix. Je me suis approchée pour mieux entendre. Un voile de vapeur d'eau envahissait la salle de bain. Le plus simple, réfléchissais-je, serait de lui poser la question. Peut-être elle saurait me dire exactement ce qu'elle pensait de moi. Peut-être son idée était que j'avais dû me relever la nuit où Tipi était reparti. Dans ce cas, elle en aurait déduit que j'aurais pu lui sauver la vie en lui interdisant de reprendre le volant, et je ne l'avais pas fait. Mais non, impossible de croire une chose pareille. J'apercevais toujours derrière la paroi le corps en mouvement de Gladys, si proche. J'ai détaillé, malgré le verre dépoli, la courbe de sa nuque. J'en ai voulu davantage parce que le collier, c'était justement ce qu'il ne fallait pas dire. Vraiment, Gladys méritait une bonne mise au point.
La voilà donc, cette scène de la douche où le personnage principal de votre roman, Yves Ravaz, si l'on peut dire ça comme ça d'ailleurs, s'introduit dans la maison de sa voisine dont il avait précédemment remarqué que c'était un très bon point d'observation pour sa propre maison à lui et sa propre vie de couple. Et puis, il se trouve que cette voisine est aussi interrogée par l'inspecteur qui mène l'enquête sur la mort de sa femme, Tipi. Ce qui est intéressant avec cette scène, en dehors du clin d'œil que vous faites à Hitchcock, c'est qu'un autre suspense est souligné, et ce ne sera pas le seul moment, qui est le suspense du désir. On disait tout à l'heure qu'une des trames du roman porte sur le regard porté sur le corps, corps mort, ou ici le corps dénudé de la voisine qui prend sa douche. Mais il y a une autre trame qui est celle de l'échappée belle de la femme vers son amant, Kowalski. Si bien que un des fils qui tire l'action, j'utilise des mots un peu comme ça, des gros mots, c'est aussi le désir. C'est aussi le désir pour les corps. Quelle place vous lui donnez ?
J'ai écrit le roman avec le narrateur, qui dit « je ». C'est lui qui raconte. Évidemment, j'ai dû y mettre une part de quelque chose qui devrait être chez, à l'intérieur de mon désir personnel, peut-être. Certainement, on ne va pas le nier. Ça, c'est la question de base. Mais surtout, la constitution du désir m'est venue, non pas en disant « maintenant, je vais écrire sur le désir, je vais manifester son désir ».
Bien sûr.
Mais simplement, il m'est apparu dans l'écriture que tout ce que voyait le personnage lorsqu'il le raconte, tout ce qu'il voyait, donc tout ce qu'il racontait qu'il voyait, était un indice qui permet de saisir, sans qu'il le dise de manière directe, l'épaisseur du personnage. Voilà comme je le ressens. C'est-à-dire qu'effectivement, il est pétri de désir, mais comme chacune et chacun d'entre nous est pétri de désir, la faim, la chair, tout, la soif. Et il m'est apparu que tout ceci passait par le regard. J'ai cette idée qu'à un moment donné, dans le récit, je le vois, moi, en train de, finalement, il est avec cette femme qui, dont on peut déduire à un moment donné qu'elle est peut-être beaucoup plus jeune que lui. Il est derrière cette femme qui part en voiture. Et il est quoi, lui, devant, dans sa voiture, devant un écran? Il est, moi, je dois être sur le siège arrière. Je pense pas que je tienne le volant, mais je suis sur le siège arrière.
Voilà, en tant qu'auteur.
Il y a des chances qu'en tant qu'auteur, ce soit ma place. Et si vous voulez, tout est visuel, c'est-à-dire qu'il la suit et sa femme est censée aller travailler dans l'entreprise de son père. À un moment donné, donc, l'entreprise, on tourne à droite. En définitive, elle tourne à gauche. Mais lui, il suit. Et je crois qu'à ce stade-là, tout s'amplifie. Parce qu'il la suit jusqu'au terme de son voyage, de son court voyage. Elle parque sa voiture dans une rue et elle rencontre ce dénommé Kowalski dont on a parlé au début et qui est son amant depuis un certain temps. Voilà le depuis un certain temps. Et donc, où la notion de désir m'a semblé plus complexe qu'on ne le croit, c'est dans le fait que j'ai d'abord écrit qu'il les rejoint pour avoir une explication. C'était le moment. Mais il se passe une autre chose, c'est qu'il peut aussi ne pas les rejoindre et attendre. Et je ne sais pas où est la notion de plaisir à cet endroit-là.
Évidemment, de même, où est sa notion de plaisir à épier sa voisine ou à se savoir épier par sa voisine, ou même, pour aller dans des zones un tout petit peu plus au bord du précipice, à regarder cette scène de mort, de corps morts jetés dans le ravin. Évidemment que les choses, elles sont complexes, en tout cas vous les rendez de manière très belle et très fine, complexe, Yves Ravert.
Oui, je ressens, dans la situation où se trouve le personnage, les événements s'accumulant, comme je l'ai déjà dit, je ressens le personnage comme devenant plus, alors plus complexe, c'est pas plus plus difficile,
pas plus compliqué,
mais plus voilà, c'est ça, plus pétri de plusieurs données quoi. Lorsqu'il revient, parce que j'ai eu un lecteur qui me dit mais lorsqu'il a suivi sa femme, ensuite sa femme rentre, lui il rentre aussi, ils dînent ensemble, mais alors pourquoi ils discutent même pas de ça, il s'adresse pas à sa femme en lui disant où étais-tu, vous imaginez la situation, il y a 10 pages à écrire là et moi je ne les écris pas, ou je les écris et je les ôte. Parce que ce qui me paraît intéressant, c'est que justement, il soit en rétention. Et le fait qu'il soit en rétention ne met pas le lecteur en rétention, mais pose la question de savoir que il y a ici quelque chose, ou alors on prend pas au sérieux le fait que votre femme vous trompe, ou alors quand même, il y a une dose quand même assez lourde, c'est un poids qui me paraît assez important. Et dans ce cas, ce phénomène de rétention fait que c'est la nature même du personnage qui est en train de prendre du volume.
Parce qu'il est comme chargé de ça, il est comme épaissi et chargé de ce qu'il a vu, de ce qu'il sait. Mais j'introduirai un autre ingrédient qui est celui de l'amour. À plusieurs reprises, ce personnage qui dit « je », qui est le narrateur de votre roman, Yves Ravet, dit qu'il aimait plus que tout cette femme. Et même il y a plusieurs fins de chapitre, et Dieu sait si les fins de chapitre sont importantes parce qu'elles sont comme... Elles sont comme éminemment déclaratives. Pour l'amour du ciel, je voulais finir ma vie avec Tipeee. Donc, il y a quelque chose qui aussi dit que cet homme-là s'est débrouillé avec ce qu'il savait, ce qu'il avait vu, ce qu'il n'avait pas vu, ce qu'il ne savait pas, en balance, dans sa propre balance, avec l'amour qu'il portait à cette femme et son désir de vivre avec elle.
Je pense... difficile de penser quand on écrit en définitive, on essaie d'établir les choses, et donc je me dis quand même que cet homme l'aime follement, je le ressens, et je pense aussi que il ne faut pas oublier la contingence. Il est dans un cadre particulier. Il vit, on apprend au début du roman que son beau-père habite dans la même maison, donc c'est le père de sa femme. On apprend que sa femme mène une vie de noctambule. Elle joue au billard, elle est très forte.
Que son beau-père l'emploie.
Elle est employée par le beau-père, certainement un poste bien supérieur à celui du narrateur. À l'intérieur de ça, cet homme a dû choisir un jour dans sa vie le fait de se marier puisqu'ils sont mariés et femmes. Et donc, il est chargé d'un amour qui se heurte à beaucoup de circonstances. Et j'avais quand même le sentiment que, au-delà de tout, l'essentiel pour lui est de pouvoir réaliser le fait que d'être toujours avec sa femme, elle ne lui en laisse pas obligatoirement, elle ne lui en laisse pas la possibilité, mais j'attends dans le roman, je rappelle en cours d'écriture, quoi, c'est ça, le déclenchement qui fait que la situation peut basculer à un moment donné. C'est ce qui me paraît le plus riche à développer. Le plus riche, mais quand même... par quel méandre, par quel secret, par quelle composition finit-on par s'autodétruire, par exemple? Comment fait-on pour finalement afficher le contraire de ce qu'on pense, ou pour trouver des solutions qui n'en sont pas? Comment les choses se passent? J'ai l'impression que Alors il y a un stade où je me heurte quand même à la composition du personnage. Si on... Le personnage, je ne dis pas, je le compose, mais par conséquence de fait, par voie de, par les faisceaux multiples conduisent vers sa personne, comme des faisceaux multiples conduisent vers la personne de chacun des personnages, des, enfin des protagonistes. Et c'est un jeu qui finit par être très qui peut être très complexe, très embrouillé quand même. Fort heureusement, les choses peuvent se simplifier, parce que dans la vie, on a toujours une règle, et vous savez qui nous rappelle la règle ? C'est la police.
Que Hitchcock n'aimait pas du tout.
Comment ?
Que Hitchcock n'aimait pas du tout dans cette archive de 63, alors que oui, dit la police ?
Je ne suis pas d'accord avec Hitchcock, moi. Parce que
dit la police, alors ?
Ben, d'abord, la règle. Oui, alors donc moi, je vais énoncer, ben, c'est la règle du père. C'est la règle du père et de la qui est la règle a priori de la sécurité. La police, elle dit, la police, elle vérifie les faits et elle ne dirige, elle ne déduit des faits quelque chose que si ça a été prouvé, si les faits sont parlants. Mais à partir du moment où les faits sont parlants, il y a encore une chose. La police, elle ne peut pratiquer qu'avec quelque chose de matériel, avec donc une preuve. Et l'histoire de la preuve, dans un roman, c'est l'histoire de la matérialité. Et c'est l'histoire des objets, par exemple. Et c'est vrai que la preuve, elle doit être matérielle. Ça peut être un enregistrement vocal, est-ce que c'est matériel ? Mais en attendant, c'est très souvent une tache sur un habit, un morceau de tissu retrouvé à tel endroit, un élément d'humidité, alors que, etc., etc., une empreinte, une... La police, elle ne fonctionne donc qu'avec des éléments qui sont, on va dire, irréfutables. Et face à la perte d'équilibre que constitue le passage dans la transgression, c'est-à-dire ici une histoire peut-être, peut-être, on va dire criminelle, donc si c'est criminel, c'est qu'il y a mort. Et face à ce déséquilibre qui se met en place, il n'y a plus qu'une certaine logique qui doit revenir. Quand je dis la loi du père, ça veut dire celle de l'autorité qui a... c'est pas l'archétype ancien dont on peut dire, mais c'est simplement la loi de la rigidité et de la loi.
Parole à la police, donc, c'est une archive où Georges Massu, qui a inspiré le personnage du commissaire de Simenon, s'exprime en 1958.
Le Maigret a été façonné par le type bourru, le type bon garçon, le type assez fort, le type adroit, et qui travaillait non pas tout à fait comme les inspecteurs de la PJ, car, comme disait Simenon, ça n'intéresserait personne. Le public, lisant un roman, ne comprendrait pas qu'un grand policier du Quai des Orfèvres soit obligé de demander une autorisation à un inspecteur de la Sûreté Nationale pour faire une perquisition sénéoise. Alors il a fallu que son Maigret fasse le commissaire, le secrétaire et l'inspecteur en même temps, et qu'il se fasse aider par un, deux, trois personnages selon les exigences de l'enquête ou des enquêtes. Et c'est ainsi que le Maigret a démarré dans ce sens-là. Il a suivi son chemin. Il a fait pas mal d'affaires. Ça vous change des romans américains où vous voyez des poursuites en auto, des boum-boum-boum, des mitraillettes, des coups de revolver, alors que Maigret se balade la bip à la bouche et puis les mains dans les poches. Maigret, c'est un bonhomme comme moi qui se dépêche pas, qui va pas vite, oh, qui est grognon, et puis qui est bon garçon, qui respecte souvent, et puis qui a une femme qui lui dit toujours « n'attrape pas froid, mais prends un capuchon, prends ton parapluie ». Et il réussit, mais Maigret, tout aussi bien que les policiers américains ou les policiers anglais, car j'ai travaillé avec eux, et ils sont pas plus forts que nous, je crois. J'ai fait pas mal d'affaires criminelles, et la manière de faire avouer un homme, n'est-ce pas, c'est de lui dire ce qu'il a fait, tout est là. Faut pas lui demander de vous le dire, il vous le dira pas. Alors c'est à vous de lui dire, seulement faut pas vous tromper, car si vous vous trompez sur le moindre détail, si petit qu'il soit... Alors là, le type se dit, il veut monter le coup, il ne sait rien et puis il ne vous dit plus rien. Tout le secret est là.
L'inspecteur m'a gentiment tiré par la manche pour me guider sur quelques mètres en direction du précipice. Il s'est penché devant une trace de freinage. « Vous voyez, monsieur Meyer, mes hommes ont vérifié. Les empreintes de pneus ne sont pas celles de la voiture de votre épouse. Tout ce que nous pouvons constater, c'est qu'elle roulait à grande vitesse. Mais ce qui me surprend, elle n'a même pas freiné. Du moins, je ne vois aucune trace. C'est bizarre, vous ne trouvez pas ?» Je ne savais que dire. Trop de questions. Mais lui, ça lui était égal. Il a expliqué qu'il aurait aimé être présent quand la voiture avait défoncé la glissière. Votre femme n'a même pas amorcé le virage, elle est partie tout droit. Vous y comprenez quelque chose, vous, monsieur Meyer ? La chaleur le dérangeait. Il a enlevé son panama à bord étroit, s'est essuyé le visage, avant de desserrer son nœud de cravate, puis le col de sa chemise blanche. Je voudrais simplement savoir si elle a quitté délibérément la route, voyez-vous, ou si elle a effectivement raté son virage. Elle roulait vite, certes, même très vite, votre femme, mais les freins, ça existe. Et puis, soyons sérieux, elle n'a même pas contrebraqué. C'est une voix possible, Yves Ravet, pour votre inspecteur Costa. Une voix la mienne, donc une femme. Et moi, en lisant ça, je me suis dit, comment il l'entend, Yves Ravet ? Comment il entend ce Costa qui dit, vous trouvez pas ça bizarre un peu, monsieur Meyer ? C'est quand même un peu bizarre. Comment ça résonne dans votre tête ?
C'est loin des interprétations qu'on me donne parfois, par exemple, concernant Simenon. C'est marrant ça, mais j'ai physiquement le portrait et la personnalité, ça me revient maintenant. Et c'est vrai que donc toutes les constructions sont multiples, mais là par exemple, il y a vraiment, j'ai plus le nom de l'acteur, parce qu'on doit respecter les acteurs, on doit être capable de citer leur nom chaque fois, et du policier dans Chinatown de Polanski. Je me suis rendu compte parce que c'est une réaction qui revient beaucoup dans les appréciations du roman, parlons-en comme ça, où on me parle de l'inspecteur Colombo, Peter Falk, joué par Peter Falk. Et donc, effectivement, dans l'écriture, après une vingtaine de pages, quelques semaines comme ça de travail, je me suis dit, mais ton personnage, il agit comme pourrait agir Colombo. Et donc, tu arrêtes maintenant, parce que je ne veux pas caricaturer, si vous voulez, faire du naturalisme de l'acteur, quoi. C'est-à-dire que non, c'est pas très sérieux, moi je trouve, c'est limité, donc j'ai laissé là. Ce qui est essentiel pour moi, ça, je reviens sur l'inspecteur dans le film de Polanski, c'est qu'en définitive, il a un nom, il s'appelle Salvatore, avant de s'appeler Meyer. Et Meyer, on va dire que ça pourrait être allemand, pourquoi pas, ou anglais toujours. Mais Salvatore, c'est quand même, moi ça me fait penser à l'espagnol. Et on est en Californie, ça c'est clair. Et c'est important. En Californie, la langue dominante, le plus souvent, ou du moins dans certaines catégories, si vous voulez, c'est l'espagnol, c'est pas l'anglais, vu la proximité, etc., de la frontière. Et donc, il y a il aurait cet accent, voilà, que je ressens, moi, très, très fort. Donc, je l'entends parler, quoi. Je l'entends parler avec cette inquiétude, mais surtout, je ressens que l'inspecteur, il est peut-être le seul, mais il a une véritable empathie pour ce personnage, pour Salvatore Meyer. Il lui dit souvent quoi. Il lui dit souvent, moi, vous savez, je vous apprécie, vous êtes vraiment. Simplement, j'ai des questions à vous poser.
Et puis, ce que vous traversez est difficile, monsieur Meyer. Il le prend toujours à partir de l'endroit où il suppose qu'il se trouve, c'est-à-dire. Oui. Un homme qui vient d'apprendre la mort accidentelle de sa femme. C'est Perry Lopez qui joue l'inspecteur dans le film de Roman Polanski.
C'est ça. Et il est dans un rapport, mais lui, il est frustré par celui qui joue le rôle de, enfin, par Polanski. Il est frustré, c'est un inspecteur frustré, il n'arrive pas à aboutir, quoi. C'est Nicholson qui a la vérité. Et donc, dans le roman, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, ça m'a intéressé sans que je m'en rende compte, et je m'en rends compte après, c'est qu'en définitive, l'inspecteur, quand il rencontre Salvatore Meyer, qui lui raconte l'histoire, donc Salvatore Meyer nous raconte que l'inspecteur lui dit « J'ai rencontré tel témoin, tel événement, j'en ai parlé », et il le rapporte à Salvatore. Mais en même temps, il ne lui dit pas ce qui s'est passé exactement. Il lui dit « J'ai parlé avec la voisine », plusieurs fois, et comme l'inspecteur est têtu et précis dans ses allégations, il y a de quoi être inquiété. Surtout le fait que le narrateur, en fait, il raconte l'histoire, mais il ne possède pas l'ensemble de l'histoire. Et il y a une partie de l'histoire qui lui manque. Et je pense que je me suis dit après, mais est-ce que c'est bien logique ça de faire ça, quoi.
Voilà. Mais est-ce que c'est pas le lot de la vie? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une partie de l'histoire qui nous manque? De toute façon, on ne sait pas ce que savent les autres.
Oui, alors qu'on pense, quand on écrit un livre, qu'on la contient totalement. Eh bien, moi, dans ce cadre-là, c'est vrai que je n'ai pas la totalité, quoi. Donc, je suis, on va dire, je suis incomplet. Voilà.
C'est un très grand merci, Yves Ravet, d'avoir été avec nous pour évoquer ce livre. On n'a pas fini, hein, finalement. On dit toujours que vos livres sont courts, mais il y a beaucoup à dire dessus. C'est un roman qui s'appelle Pas dupe. Il est sorti aux éditions de Minuit. Et puis je redis que Cours classique se jouera dans une mise en scène de Sandrine Lanneau avec Philippe Duclos et Grégoire Ostermann au Théâtre du Rond-Point à Paris à l'automne prochain. Prise de son ce soir, Stéphane Touvenin à la réalisation, Charles Trou. Un grand merci à Jeanne Aléos, Luc Vauvillier, Marianne Chassor, Valentin Rémy et Romain de Becdelièvre, car par les temps qui courent, ce sont elles et ce sont eux. France Culture, c'est le journal, tout bientôt. FranceCulture.fr, c'est toutes les informations, les archives, les musiques, les citations, le podcast. C'est un monde rêvé, FranceCulture.fr. Et moi, je vous dis à demain.